toutes les possibilités d'atteindre l'intériorité. Donc on a traduit en fait la ville, la terre, tous les éléments terrestres par des données spirituelles. C'est-à-dire que pour pénétrer à l'intérieur du Saint des Saints, en réalité, il s'agit aussi de faire un certain travail sur soi pour accéder soi-même au Saint des Saints. Que le Saint des Saints n'est pas seulement un endroit géographique, c'est en même temps une idée, une force, une puissance qui se trouve dans mon être. Et lorsque j'arrive à m'élever moi-même, ma société, mon peuple, ma nation, au degré de ce degré physique, eh bien, je l'atteins. C'est-à-dire que les gens se posent la question, quand est-ce que le troisième temple sera reconstruit? C'est très simple. Lorsque le troisième temple sera reconstruit au niveau de la société. C'est pas un élément de chercher un kablan, d'apporter des pierres. C'est pas le côté technique qui nous manque. C'est-à-dire que nous devons d'abord accéder à un certain niveau pour le trouver dans notre vie. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Ishtavut Hatsura. Lorsque j'ai une forme, un développement de arachim, de mesures, de données, de notions propres, supérieures, élevées, eh bien j'atteins dans ma vie des degrés élevés et dans l'espace et dans le temps. Et avec des hommes qui correspondent à mon étage. Je veux dire par là que nous allons rencontrer dans notre vie des hommes de notre espèce. Ça veut dire que si tu es quelqu'un de qualité, tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu, va te faire des ivougim, des connaissances, des liens avec des hommes de ta qualité. Donc, si vous voyez des gens qui se plaignent, qui tombent toujours sur des tordus, il faut qu'ils se posent des questions. Eux-mêmes. Ça veut dire que généralement, Akadosh Baruch Hu nous fait placer face à des éléments que nous avons construits à l'intérieur de notre être. À tel point que je suis capable de voir ces éléments-là dans ma vie extérieure, à mon être. Et en réalité, tout est un. De la même manière, il faut lire la Torah de cette manière. La Torah n'est pas seulement une lecture étrangère à mon être, à ma vie. C'est moi-même. C'est-à-dire que nous devons comprendre que toute la Torah, c'est l'évolution d'un organisme humain qui commence par être la naissance, donc c'est la création du monde. La Torah nous raconte une histoire, mais cette histoire que la Torah raconte, c'est moi. Ça veut dire que la création du monde, c'est ma création. Et lors de la création du monde, il y a un tohu bohu. On ne sait pas trop où aller. Le bébé, lorsqu'il vient dans ce monde, il est un petit peu paumé, il n'a pas encore une direction. Donc Akadosh Baruch Hu le soigne, comme la maman soigne le bébé, petit à petit. Mais le bébé commence à faire quelques petites bêtises. Okay? Il commence un petit peu à se rebeller. Alors il s'appelle Nimrod. Et d'un autre côté, il a au côté un gentil, bien en lui, qui s'appelle Avraham. Et donc il s'agit de savoir qui va gagner qui. Qui va prédominer qui. Donc si je permets à mon Avraham, à l'intérieur de mon être, de prendre les rênes de mon histoire, ben, c'est la même chose. Donc la Torah nous conseille par une histoire, c'est une parabole, okay, qui correspond à ma vie. Quand je vais raconter une histoire à un enfant, je ne vais pas lui raconter son histoire à lui en utilisant son prénom à lui. Je vais lui raconter, il était une fois un petit garçon, et lui il comprend tout seul. Alors que le petit garçon, il n'existe que dans les forêts, très loin, il y a très longtemps, et dans un palais, il y avait un roi, il y avait un petit garçon. Immédiatement, le petit garçon s'identifie. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nous sommes des petits garçons, des petits enfants, des petites filles. L'Akadosh Baruch Hu, il nous raconte une histoire et nous, nous devons nous identifier à cette histoire. Si on sait le faire, c'est un exercice, eh bien, toute la psychologie de la Torah, eh bien, elle commence à faire partie de notre vie. Et même lorsque j'arrive à des parachiotes comme nous avions hier, okay, eh bien, les Lévim qui sont responsable de l'accompagnement des enfants d'Israël entre l'Égypte et Jérusalem. Lévi veut dire accompagnateur, livouille. Eh bien, ce Lévi, il faut que je comprenne qu'il existe en moi. Dans chacun de nous, il y a ce Lévi. Et il est responsable de surveiller ce Lévi, les instruments du temple, de moi-même. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, j'ai un temple et je suis obligé de le surveiller. Et donc, j'ai trois familles à l'intérieur de cette tribu de Lévi. Et chaque famille a une fonction différente dans ce travail, et de protection, et d'élévation, et de porter, et de déplacer, et de se déplacer, et de marcher tout simplement pour jouer mon rôle d'homme. Ça veut dire que Lévi, c'est en réalité le peuple d'Israël, okay, qui en réalité est en marche de son histoire, dans son histoire, pour arriver à atteindre les degrés d'élaboration du plus haut degré qu'on puisse arriver, c'est-à-dire que le Lévi nous fait sortir d'Égypte, et durant tout le désert, il nous accompagne jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Et donc il y a Kehat, Gershon et Merari. Et il y a trois manières de vivre. Kehat, c'est une des manières de vivre, c'est-à-dire avant que le mal ne m'atteigne, même pas dans ma pensée, je le repousse. Ve'ata akhe et chinav, comme on dit au Racha dans la Haggadah de Pessah. Gershon, il faut savoir aussi divorcer dans la vie, de certains degrés, Gerushin. Et Merari, il faut savoir et aussi vivre dans des moments d'amertume, comment on s'en sort. Donc Kehat, Gershon et Merari, ce n'est pas seulement de noms de famille, de tribu de Lévi, sinon ça ne m'intéresse pas. La Torah parle de moi, elle me dit il y a trois manières, et c'est la même chose, je peux transporter tout ça dans mon couple. C'est-à-dire dans mon couple, il y a trois manières de vivre avec mon épouse ou avec mon époux. Il y a la manière, puisque nous sommes accompagnés dans notre vie pour aller atteindre notre Eretz Israël au niveau harmonique du couple. On est sorti d'Égypte, c'est-à-dire d'un élément où chacun était pour soi. C'est ce qu'on appelle les célibataires. Okay? C'est l'Égypte. Donc chacun pour soi. Veloraa ish et achiv. Personne ne regarde son frère. Tu te maries, tu commences à sortir, tu reçois une certaine donnée. C'est la Torah en route. Et ainsi de suite. Et donc, tu as plusieurs manières de vivre ce degré. Là aussi, c'est 4 degrés. Au niveau de Eretz Israël, je ne vais pas y revenir, nous sommes dans la phase 2 du shiur d'aujourd'hui, c'est-à-dire Yesod kol mitzvot hu Eretz Israël. Nous avons donc développé, ça va être la suite donc de la fois dernière. Alors je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là, mais on va avancer. Là, vous pouvez prendre des feuilles, il y en a encore ici. Je répète juste que la fin du dernier cours traitait du fait que la lumière de la Chochma, la lumière de la sagesse, pouvait arriver en fait à être développée chez l'homme grâce au fait de sortir, de s'éloigner, de repousser, d'identifier les vraies valeurs de ma vie et de les vivre et de mettre à côté les valeurs qui ne font pas partie de ma vie. Avec des mots simples, savoir où se trouve l'essentiel et où se trouve le futile dans ma vie. Donc, si je sais me concentrer sur l'essentiel dans ma vie, même les éléments futiles ne vont pas gâcher ma vie. Mais si je ne sais pas faire ce tri, mais à chaque petit élément devient perturbateur parce que je n'ai pas une idée bien précise de ce que représente en fait mon essentiel. Et dans le couple, c'est pareil. Si l'essentiel est là, même s'il y a des petites choses autour qui ne vont pas, on peut toujours s'arranger parce que l'essentiel est là. Mais si tu oublies l'essentiel, tout le reste ne peut pas avancer. Donc c'est la même chose. La sagesse qui s'appelle la Chochma, et j'ai défini la dernière fois la Chochma comme étant la capacité à agir, c'est ça la chouchma juive. La chouchma, ce n'est pas de l'intellect. Ça, c'est 2000 ans d'exil qui nous ont massacré la santé mentale. On a l'impression que tout est intellectuel, alors que la vie, ce n'est pas seulement l'intellect. L'intellect, c'est une partie de la vie, mais pas toute la vie. Ça veut dire que l'intellect doit devenir, en fait, un aboutissement, une vie. Tant que la chouchma n'est pas vécue, ce n'est pas une chouchma. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, on le dit tous les soirs, « Kulam bechochma asita ». Quand tu as une chochma, c'est que tu fais. Eh bien, nous apprenons d'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est l'acteur de sa propre sagesse, c'est-à-dire qu'il met en application sa sagesse, et c'est de là que je vois que c'est une vraie sagesse. Si j'ai une sagesse et je ne sais pas la mettre en action, elle n'est pas sagesse. « Ken kol shechochmato meruba mima'asav en chochmato mitkayemet » Donc si je ne sais pas réfléchir et mettre en application ma réflexion, En réalité, c'est une sagesse qui est, n'est pas fertile. C'est-à-dire qu'elle est bloquée, elle est complètement fermée, et donc elle reste au niveau de la pensée, mais elle n'arrive pas à se traduire en acte, à se cristalliser dans ma vie. Et donc nous commençons maintenant la deuxième partie. Le fondement, donc dit le Rav Kharlap, le fondement de toutes les mitzvot, c'est Eretz Israël. C'est la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que le fondement de toutes les mitzvot, Yesod, c'est-à-dire la base, la racine même, les fondations, c'est la terre d'Israël. À tel point que nous avons une expression qui est très dite, mais qui n'est pas assez comprise, c'est mitzvot hatluyot ba'aretz. Traduction, ce sont les mitzvot qui dépendent, qui sont pendus à la terre. Sans terre, pas de mitzvot. Donc les mitzvot tluyot ba'aretz. Autrement dit, en dehors de la terre d'Israël, okay, tu fais les mitzvot, mais ce n'est pas le même niveau parce qu'il n'y a pas la terre. Tant que tu ne fais pas les mitzvot au niveau de la terre, ce n'est pas le même degré. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ça s'appelle mitzvot hatluyot ba'aretz. Les mitzvot qui dépendent, qui sont en réalité pendus à l'idéologie de la terre d'Israël. Donc, le Sifri le dit clairement, ce que je suis en train de vous dire, que toutes les mitzvot réalisées en dehors de la terre d'Israël ont une qualité de quoi ? De souvenir, de mémoire. Pour ne pas oublier le jour où tu reviendras en Eretz Israël pour les appliquer selon le vrai degré. Et qu'est-ce que ça veut dire le vrai degré ? Encore une fois, toute chose dans ce monde doit traverser trois plans pour se réaliser pleinement. L'espace, le temps et l'homme. C'est-à-dire que si je fais une mitzvah qui est dans le temps nécessaire, voulu, c'est bien d'accord. La personne voulue, on est d'accord, c'est un juif, un homme d'Israël ou un ben noir qui fait certaines mitzvot. Okay? Mais que je ne suis pas dans le lieu correspondant à cette mitzvah, eh bien j'ai deux pieds et il me manque une jambe. Donc je suis boiteux d'une jambe. Ça veut dire que l'idéal, c'est d'être dans le lieu qui correspond à la mitzvah, dans le temps qui correspond à ce lieu et à la mitzvah, et l'homme qui réalise cette mitzvah dans le bon lieu et dans le bon espace, et dans le bon temps, eh bien en réalité, il y a une harmonie totale entre les trois degrés. Et c'est comme ça que nous atteignons dans notre vie ce qu'on appelle la refoua, ou la bri'out. Bri'out, c'est-à-dire la bonne santé, c'est pas seulement être en bonne santé physique, mais en bonne santé mentale, morale, psychique, dans tous les degrés. Donc un homme en dehors de sa terre, il ne peut pas être en bonne santé totalement, okay, parce qu'il n'est pas dans le lieu qui correspond à sa nature. Il mange une nourriture qui ne correspond pas à son être. Il étudie une Torah qui malheureusement est obligée de passer par des écrans qui sont en dehors de son lieu naturel. Et donc il absorbe de toute forme d'absorption et de nourriture, des éléments étrangers à son identité profonde d'Israël. Moralité, il se transforme, même son visage se transforme, sa manière d'être se transforme, sa manière de s'habiller se transforme. Okay? Les formes de son corps ne sont plus les mêmes, sa bouche ne s'ouvre plus de la même manière. Donc même quand il va parler dans sa langue normale, naturelle, c'est-à-dire la Shona Kodesh, l'hébreu, eh bien, ce sera un hébreu avec des éléments qui ne permettent pas réellement de parler cette langue. Parce que l'exil dans lequel j'étais, okay, a fait des dégâts en moi. Alors comment est-ce que je peux réparer ça? Par mes enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être égoïste, il faut penser pas seulement à moi, mais à mes enfants, à mes petits-enfants. Alors moi, c'est peut-être foutu, ou moyennement foutu, mais mes enfants et mes petits-enfants, Baruch HaShem, vont naître dans le lieu qui correspond à leur identité. Ils vont parler leur langue identité. Ils vont manger de leur identité. Et ils vont en réalité vivre dans un contexte, et au niveau du temps, et au niveau d'espace, et au niveau de l'homme, qui est complètement en harmonie avec leur être. Donc ça va être des enfants beaucoup plus bri'im, beaucoup plus en bonne santé que les générations qui étaient en dehors de cette terre. Alors maintenant, je m'adresse aux mitzvot. Kiyuma mitzvot bechutz la'aretz. Donc l'application des mitzvot en dehors d'Eretz Israël, le'umat kiyuman be'eretz Israël, par rapport à leur application en Eretz Israël, dit le Rav, ou begeder eino metsuve ve'ose. C'est au niveau de eino metsuve ve'ose. Qu'est-ce que ça veut dire « Eino metsuve ve'ose » ? Là, il y a un fondement extraordinaire chez le Maharal, chez le Rav Kook plus tard, et je vais essayer de vous le faire passer. Il y a des mitzvot qui s'appellent « metsuve ve'ose ». C'est-à-dire qu'il y a un, d'abord, avant l'ordonnance, il y a un ordonneur. D'accord ? Il y a le « metsave ». Qui c'est le « metsave » ? Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Après le « metsave », il y a la « mitzvah ». Regarde, ça s'écrit pareil. Hein. Ça, c'est la « mitzvah », donc c'est l'acte et la pensée. Et il y a le « metsuvé ». Ça s'écrit toujours pareil. Celui qui subit l'ordre, c'est-à-dire l'homme d'Israël. D'accord ? Ça veut dire que nous avons ici trois degrés. Metsavé, mitzvah et metsuvé. Je vais vous mettre les points. D'accord ? Metsavé, mitzvah et metsuvé. Il y a des mitzvot qui sont dans un degré de metsuvé ve'ose. C'est-à-dire que quelqu'un m'ordonne de faire la mitzvah et je la fais. Pour l'instant, je traduis simplement, je vais rajouter une couche tout à l'heure. Il y a des mitzvot, et dit le Rav ici, quand tu fais une mitzvah en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si on ne te force pas à faire la mitzvah, mais tu la fais. Alors, qu'est-ce qui manque en dehors d'Eretz Israël ? Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu as une mitzvah et tu la réalises, mais en réalité tu n'es pas soumis à l'ordre divin. Incroyable. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Qu'est-ce qui se passe entre ce degré et le degré de Eretz Israël où il y a les trois? Ben, tout simplement, je vous ai traduit la mitzvah pour l'instant comme étant un ordre. Mais en réalité, la traduction est fausse. C'est faux. C'est pas une la vraie traduction. Baruch ata Hashem Eloheinu Melech Haolam. Okay? Traduction. Relié, tu es Hashem, pas béni. Relié. Baruch en hébreu veut dire relié. Donc Baruch ata Hashem. Relié, tu es l'Éternel. Eloheinu. C'est-à-dire, c'est l'éternité qui vient dans ce monde. C'est-à-dire qui s'applique à l'homme, à la nature. Donc Elohim. Melecha Olam, donc je le cite en renforçant, c'est-à-dire pas seulement un planeur, mais maître du monde, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, ça veut dire qui s'est marié avec nous, comme Anime Kadesh Isha, Areat Mekudeshet Li. Donc il m'a sanctifié, il s'est marié avec moi, grâce à ses mitzvot à lui. On est bien d'accord, c'est pas nos mitzvot, mais mitzvotav. Ce sont ses mitzvot à lui. Ceux qui parlent l'hébreu, ça leur paraît normal, ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, nous n'avons aucune mitzvah. Ce sont les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il nous donne ses mitzvot, vetzivanu. Qu'est-ce que ça veut dire vetzivanu ? Pour nous rattacher, pour devenir avec lui comme un équipage. Tsevet, en hébreu. Ça veut dire que je deviens dans son équipe. Il m'a fait rentrer dans son équipe. Donc, vetzivanu, il m'a rattaché à lui. Vetzivanu, tac, 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 peu importe la mitzvah maintenant. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce que je viens de vous dire implique des choses et induit des choses très importantes. Tant qu'il n'y a pas l'ordonneur, entre guillemets, mais qu'il n'y a que l'ordre et l'applicateur de l'ordre, eh bien, quand tu fais la mitzvah, tu fais l'acte, tu as fait une bonne chose.
Mais tu n'es pas relié.
Mais en réalité, tu n'es pas relié à la source, mais plus que ça, la source n'est pas passé par ta mitzvah pour remplir un petit peu plus la terre. Et là, je rentre dans un nouveau domaine. Quand on applique une mitzvah en Eretz Israël, exemple très clair, simple, nous sommes maintenant en train d'appliquer une mitzvah. Et vous et moi, nous sommes en train d'étudier la Torah. C'est une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ordonneur d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah. Il y a donc la mitzvah, c'est l'ordre lui-même, et il y a ceux qui subissent la mitzvah, c'est-à-dire nous. Eh bien, au moment où nous appliquons cette mitzvah, parce qu'elle a un metzavé, un ordonneur, eh bien, l'ordonneur circule dans la mitzvah que je suis en train d'appliquer. Et donc, au même moment où nous sommes en train de parler, c'est comme s'il y avait plus de divin sur terre. Ça veut dire qu'il coule. Akadosh Baruch Hu descend, comme s'il y avait un flux. Et il nous traverse, et la mitzvah, et le metsuvé, l'homme qui l'applique, et donc il y a plus de divin sur terre. Après, plus qu'avant. Et donc, et il n'en metsuvé veosé, ce qui enlève cette partie, eh bien en réalité, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire, il y a un bon acte, il a fait une bonne action. C'est vrai, c'est une bonne action, c'est compté comme une bonne action. Mais il manque l'essentiel, c'est-à-dire la circulation du divin à l'intérieur de cet acte. Et ça, c'est une nouveauté extraordinaire. Il faut comprendre que quand vous appliquez une mitzvah, vous ne faites pas une bonne action. Mitzvah n'est pas bonne action. Mitzvah, ça veut dire plus de Akadosh Baruch Hu sur terre. Je suis en train de faire descendre encore des kilos et des centaines de kilos
d'énergie
divine sur terre. Qu'est-ce qui se passe après, puisqu'il y a plus de divin sur terre? Eh bien, les choses changent. C'est-à-dire, après ce chiour, nous, on s'en va à la maison. Mais au niveau de la planète, les choses sont en train de changer parce que j'ai fait venir encore 2, 3, 10 kilos spirituels, peu importe. C'est juste pour vous faire comprendre la chose. Eh bien, les valeurs vont pénétrer chez les gens. C'est comme si Dieu circulait maintenant dans les rues. Un petit peu plus qu'avant le chiour. Et donc, il va rentrer dans des gens qui se baladent, dans des maisons. Et des gens vont avoir de meilleures pensées. Quelqu'un qui était en train de frapper ses enfants, il va se dire, tiens, peut-être c'est pas la bonne guicha, c'est pas la bonne manière, peut-être qu'il faut que je change de manière. Quelqu'un qui était en train de vouloir faire du mal, quelque chose le rentre en lui, il ne sait pas ce que c'est. Eh bien, ça vient de toute cette puissance qui est amenée par tous les gens qui appliquent des mitzvot parce qu'il y a un ordonneur qui fait lien et qui circule. Donc nous aidons à Kadosh Baruch Hu, grâce à nos mitzvot, à le faire descendre sur terre. Donc nous le réalisons sur la terre,
okay?
Dans tout notre univers, c'est-à-dire dans notre pensée, dans notre façon de parler, dans notre façon de ressentir et dans notre façon de marcher et d'agir.
Pas seulement sur la terre d'Israël, c'est dans l'univers.
Surtout, ça, une fois que c'est descendu sur la terre d'Israël, parce que encore une fois, en dehors, il n'y a pas. Mais en Eretz Israël, donc cette puissance d'Eretz Israël va
rayonner
en fait sur les autres degrés du monde.
Alors, excusez-moi,
okay.
Avec tout le respect que je dois, parce que moi aussi j'habite en France,
okay. Et
il y a encore des gens qui repartent demain, je suis désolée, okay. Pour vous. Donc c'est un acte, excusez-moi l'expression, okay. Goy, de faire mitzvah et acte et pensée avec homme, sans qu'il y a Kadosh Baruch Hu, ça va la chave.
C'est pas la chave. C'est une mitzvah qui a une valeur en soi lorsque le peuple ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, nous avons vécu une histoire où le peuple ne pouvait pas faire
d'accord,
autrement.
D'accord, mais ça va où si c'est déconnecté.
Il y a fait. Ça veut dire qu'il y a des énergies en réalité. Tu fais une bonne action, mais en réalité, tu sers un autre degré que le degré où tu dois être. Je ne veux pas rentrer dans les
d'accord.
détails parce que ça risque de vexer certaines personnes. D'accord. Je n'ai pas envie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'idéal, bien entendu, l'idéal, c'est de comprendre les choses. Je ne suis pas en train de dire des choses parce que c'est ma manière d'étudier. Okay? Il n'y a pas 3 Torahs ou 4 Torahs, il y a une seule Torah. D'accord ? C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, on ne peut pas être ne pas d'accord avec l'essence même de la Torah. On peut se dire, je ne peux pas, je ne suis pas prêt pour l'instant. Ça, c'est une chose. Mais ne pas contredire la réalité de cette Torah. Ça, ce n'est pas des inventions d'une telle façon de penser ou d'une autre façon de penser. Tous les grands d'Israël, tous les Gdolé Israël savent ça. C'est un bassis. Et ce bassis, il est dans le Zohar. Ça veut dire que le fait que je sois prêt ou pas prêt à entendre ou à accepter, ça, c'est un autre degré. Je dois être honnête avec moi-même en me disant, je sais tout ça, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de l'appliquer. Je préfère. Sheken. Alors maintenant, le Rav continue. Hadar bechutza la'aretz. Parce que ceux qui habitent en dehors de la terre, domé kemi she'en lo eloha. Alors là, le Rav met une couche qui est en fait de la Gemara. Deuxième couche, dans Ketubot, 110. Il dit que c'est très grave. Pourquoi? Parce que vivre en dehors de la terre d'Israël, et maintenant j'introduis, je suis obligé maintenant d'introduire deux noms de Dieu. Le nom de Yud Kevavke, je le fais avec des H pour ne pas avoir à l'effacer, le nom, on n'a pas le droit. Et il y a le nom de Elohim. Alors je le marque en la même chose. Aleph, L, H, Yud et M. Vous le comprenez? Ok. C'est juste pour le... Vous avez compris. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'applique quelque chose, il faut que j'ai automatiquement ces deux noms. Pourquoi ? Parce que ce premier nom, c'est le nom du divin transcendant. C'est-à-dire qui est loin de ce monde, qui est difficile à contenir et à embrasser, et à apprécier, et à toucher, à tester. Il est loin. C'est un degré qui dépasse l'entendement de l'homme. En effet, ici, il y a un degré qui est en dehors du temps. Il y a le haya, le passé, il y a le hové, le présent, et il y a le hiyé, le futur. Ça me dépasse. Moi, je suis dans le présent, je ne sais pas ce qu'il y avait hier, demain, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce degré divin ? Il faut que je l'amène dans la vie, dans ma nature. Donc, ce deuxième nom de Dieu est obligé d'apparaître à chaque fois que je fais une bracha. Donc, Baruch Ata Hashem, Elohim. Elohim, c'est Elohim. Seulement avec l'appartenance. Elohim Shelanu, Elohenu. Donc, moralité. Si, par exemple, un homme se trouve en dehors d'Eretz Israël, quel est de ces deux noms celui qui lui manque ? Pas celui du dessus. Celui d'en dessous. Parce que celui de dessus, il existe. Il est en dehors du lieu, de l'espace et du temps. Donc, il est partout. Seulement, qu'est-ce que je ne peux pas faire en dehors d'Eretz Israël ? De l'amener, de l'imprégner dans ma vie terrestre. Et donc, la Gemara, elle est précise. Elle ne dit pas que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël n'a pas de Dieu, celui-là. Non, il n'a pas celui-là. Il n'a pas de Elohim, Domek Emishen lo Eloha. Autrement dit quoi ? Il n'arrive pas à faire la traduction du divin transcendant dans un divin immanent. Il n'arrive pas à le faire rentrer dans sa nature. Donc pourquoi c'est ? Maintenant vous avez compris pourquoi. Parce qu'en réalité il n'y a pas de Metsavé. Donc il n'est pas Metsuvé Veosé. Donc moralité, il fait une action qui est déconnectée du côté supérieur. Donc c'est comme si c'était une demi-action. Il prend quelque chose, il fait descendre, mais en réalité il lui manque l'essentiel parce que le degré transcendant ne peut pas descendre et s'habiller en terre impure. Or, tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël s'appelle une terre impure, et donc le Kodesh ne peut pas s'habiller dans une terre impure. Donc il ne s'habillera que en Eretz Israël, et de la terre d'Israël va diffuser sa lumière à l'extérieur avec ce qui reste.
Okay? Une terre impure.
Ce qui sera une terre impure. Hein? Ben, un air impur et une terre impure.
Parce que quelque part, j'ai toujours été d'accord okay. Dans le cours, mais quelque part, je me dis, c'est pas dans mes oreilles, ça me... Moi, on rentre avec moi trop petit parce qu'il est dans un lieu, mais il n'est pas sur tout le tout.
Nahon, tout à fait. Tout à fait.
C'est gênant.
Nahon, c'est très gênant. Seulement Akadosh Baruch Hu s'appelle Mako.
Akadosh Baruch Hu, il est dans ce petit coin, mais il n'embrasse pas
le tout. Nahon. Alors, c'est très important. Akadosh Baruch Hu, on ne parle pas de ce que lui est, mais de ce que nous pouvons dévoiler. Lui, il est partout. Mais moi, je ne peux le dévoiler que dans certains degrés. C'est comme si tu posais la question, est-ce que je peux lire un livre de Tehillim dans les toilettes ? Non, pourquoi ? Et Dieu est partout. Ça veut dire qu'il est partout, même là-bas, je vous garantis. Mais toi, tu n'as pas le droit, dans certains degrés, de dévoiler parce qu'il ne peut pas sortir de ce trou-là. Il est obligé de passer par un orifice qui s'appelle la terre d'Israël. Ce que je vous dis, c'est un verset. Ra'ene Hashem Elohecha ba. Mereshit Hashana ve'adacharit Shana. C'est-à-dire les yeux du divin se trouvent en terre d'Israël, à l'intérieur de cette terre, et c'est de là qu'il sort. Donc je ne fais pas attention à ce que lui, il peut tout. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est moi, les degrés avec lesquels je peux ouvrir ou dévoiler ou ne pas dévoiler. Là, j'ai des degrés qui correspondent à l'homme dans des parties bien précises de la terre, dans des temps bien précis. Parce que ta question, elle peut se poser aussi sur le temps. Pourquoi Shabbat est plus important que les autres jours ? Si c'est comme ça, Dieu, il est dans tous les temps. Mais c'est la même chose. Le temps du Shabbat est un orifice spécial par lequel le divin passe plus. Mais il faut accepter qu'au niveau terrestre, il existe aussi des lieux sur terre où l'orifice est beaucoup plus adéquat pour dévoiler le divin. C'est vrai ? Alors, qu'est-ce
que... Dire que si je fais une
mitzvah
en Eretz Israël, ça veut dire que j'invite
Akadosh
Baruch Hu à être
Betzavta Iti. Non, c'est lui qui t'invite à être Betzavta Ito. Oui, mais c'est pas ton tsevet à toi, c'est son tsevet à lui, attention. Toi, tu rentres dans son équipage. C'est lui, c'est pas lui qui rentre dans ton équipage. Toi, tu n'as pas d'équipage. Encore une fois, Asher Kideshanu Bemitzvot Tav. C'est son équipage. Ça veut dire que je fais partie de son équipage. Mais je travaille avec lui. Ce qu'on appelle dans le langage du Rav Kook, l'ifrol, im, el. Ken, ça veut dire travailler avec Akadosh Baruch Hu et entre guillemets, l'aider à descendre, à se dévoiler parce que c'est ça sa volonté. Et que moi je sois le canal.
Ken. Elle demande si en fait Akadosh Baruch Hu, alors si je fais une mitzvah, par exemple à Yerushalayim, ça peut être plus que si je la fais à Haïfa.
Plus je suis dans le centre, la preuve c'est que nous avons un Beth Amikdash. Et que ce que je peux faire dans le Beth Amikdash, je ne peux pas le faire.
Bevada,
c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bevada.
C'est extrême. Bevada.
Okay. Alors, quand il ne peut pas, quand le peuple d'Israël est en galoute, en réalité, il y a un problème. Il y a un problème. C'est une maladie. C'est un degré de passage obligatoire parce que nous avons perdu quelque chose. Il faut se rappeler pourquoi nous étions en exil. L'exil, ce n'est pas un idéal. L'exil, c'est une punition parce que nous n'arrivions plus à vivre en tant que collectif Israël. On n'arrivait plus à s'aimer. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a mis en position pour qu'on retrouve l'amour entre nous. Au moment où ça commence à se guérir, d'où je sais, eh bien, Akadosh Baruch Hu me ramène tout simplement. Au moment où les gens reviennent en Eretz Israël, ça veut dire qu'on est en train de guérir de cette maladie qui nous a jetés dehors.
Donc, c'est un tikkun.
C'est un tikkun, mais voilà. L'exil n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour réparer des degrés que nous avons failli dans notre histoire. C'est tout. Auxquels nous n'avons pas su prendre les éléments qui correspondaient. Et donc Akadosh Baruch Hu nous les reprend pour les languir, pour pouvoir les réaccéder avec beaucoup plus de mérite, beaucoup plus de vouloir, beaucoup plus de désir. C'est comme la Nida. La femme est Nida une fois par mois, okay, avant un certain âge, ou un âge certain. Okay. Eh bien, c'est la même chose. Pourquoi l'homme n'a pas le droit de s'approcher de cette femme? Eh bien, justement, il y a des temps et des espaces qui ne sont pas les mêmes. Et alors la femme, elle peut lui dire la même chose. Tu m'aimes plus alors? Non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec le degré du haut. Ça n'a d'accord avec le dévoilement. Maintenant, je ne peux pas dévoiler ta lumière et tu ne peux pas dévoiler la mienne. Il y a un degré qui est comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons amené la mort dans ce monde. Pourquoi nous avons amené la mort dans ce monde? Parce que le premier homme a fauté. Mais s'il n'y avait pas ce degré-là, au moment où tu donnes la vie, tu n'as plus de sang. Le sang s'est transformé en lait. Qu'est-ce qui se passe chez la femme enceinte? Le sang des règles est devenu du lait. C'est-à-dire qu'elle va donner à boire de son lait, qui est en réalité le sang de ses règles, qui s'est transformé en lait. Et donc ça veut dire que la mort s'est transformée en vie, donc elle ne peut plus boire de sang. Donc si tu restes enceinte toute ta vie, vous savez que les femmes d'avant n'allaient pas au mikvé, elles allaient au mikvé une fois tous les... Pourquoi? Parce qu'elles étaient tout le temps ou enceintes, ou en train d'allaiter, donc à chaque fois elles ne voyaient pas les règles. Il n'y a pas de règles. Après ton accouchement, c'est le seul moment où tu vois du sang. Donc, elle attendait un mois, deux mois, j'en sais rien combien, jusqu'au moment où le sang s'arrêtait. Même pas. Parce que du temps de la Torah, c'était 8 jours pour un garçon et 16 jours pour une fille. 7 jours et 14 jours, pardon. Donc, c'est, le reste, c'était même du sang, mais du sang qui était tahor, du sang pur, ce qu'on appelle dam Torah. Aujourd'hui, on ne sait plus faire la différence entre un sang pur et un sang impur. Donc, on interdit tous les sangs, parce qu'on ne sait plus faire la différence. Mais une fois que ce sang étant terminé, elle allait au mikvé et elle commençait à nourrir son enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, des fois, 3 ans. Et donc elle ne voyait pas de sang. Après, elle retombait enceinte et après, elle accouchait. Donc elle faisait maximum un mikvé tous les 3-4 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il n'y avait pas ce degré-là, eh bien, c'est la même chose. Hein, tous les degrés changent dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a des fêtes. C'est pour ça qu'il y a des moments plus élevés que d'autres. C'est pour ça qu'il y a des lieux. Pourquoi je ne peux pas construire le Beth Amikdash à New York? Parce que c'est ici. C'est Akadosh Baruch Hu qu'il a choisi. Il y a un degré dans la planète par laquelle il a créé le monde. Et c'est le degré du lien qui embrasse, et j'utilise les termes de la Gemara, où le ciel et la terre s'embrassent. Le ciel et la terre s'embrassent au Har HaBayit. Okay? Au mont du Temple. Okay? C'est une volonté divine. Donc je peux dire qu'Akadosh Baruch Hu il est partout, je ne l'ai pas réduit comme tu as dit, c'est vrai. Mais au moment de son dévoilement, tout dévoilement passe par une... Par une...
Un acte.
Par un tzimtzum, par une contraction. Pour dévoiler quelque chose, je suis obligé de contracter. Par exemple, j'ai une pensée qui est j'espère, un petit peu plus grande que le shiur que je suis en train de vous faire passer. D'accord ? Je peux vous faire d'autres thèmes maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contracté toute ma pensée pour ce soir donner ce cours avec ces mots-là.
C'est pour ça qu'une femme, elle a des contractions.
Ok ? Sinon, s'il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de dévoilement, le bébé ne peut pas sortir. Parce que le bébé sort parce qu'il y a une contraction de toutes les possibilités. Si je veux écrire une lettre, si je veux écrire un livre, je dois contracter ma pensée immense dans certains mots. Si je ne suis pas capable de faire ça, je ne peux pas écrire. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant ? Comment ça s'appelle en hébreu ? Shiur. Qu'est-ce que ça veut dire shiur en hébreu ? Une mesure. C'est-à-dire, je suis en train de contracter, de donner une mesure à plein de possibilités pour parler d'un sujet. Sinon, vous allez sortir, et il y a des shiur comme ça, on ne sait pas de quoi le rabbi a parlé. Il a commencé à New York, il a terminé à Tel Aviv. Ça parle de tout, machin, dans la Gemara, il y a marqué comme ça, le Zohar, il dit comme ça. Les gens, ils se perdent, ils s'apprennent.
Alors, excusez-moi.
J'essaie de donner un sens.
Okay. Comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai,
okay,
qui était... Je ne peux même pas dire de mots.
Okay.
Il ne pouvait pas contracter sa pensée. C'était écrit par quelqu'un d'autre.
Il y a des hommes qui sont tellement élevés qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont à dire. Le Harizal, la même chose. Okay. Rabbi Nachman de Breslev, la même chose. Okay. Moshe Rabbeinu lui-même, il est obligé d'avoir un homme qui parle à sa place. Aaron. Ve'u yel chalepé. Il sera ta bouche, la Torah le dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai tellement de pensées, à chaque fois que j'ouvre ma bouche pour parler, j'ai tellement de connaissances que je ne sais même plus par où commencer. Vous connaissez ce sentiment ?
Oui.
Si vous le connaissez, c'est que vous êtes très grand. Okay. Okay. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux écrire une lettre, tu ne sais même pas quoi faire, et alors ça finit par un machin et tu le jettes. Et tu fais plein de boulettes comme ça et tu jettes. Okay. Parce que tu n'as pas d'esprit de synthèse. Tu ne sais pas synthétiser ta pensée, et donc contracter ta pensée. Mais c'est la même chose. Et donc, pour donner quelque chose, c'est une maîtrise. De quoi ? De la synthèse. Pour faire passer un cours, c'est un travail. C'est pas n'importe comment. Il faut condenser toutes les possibilités en choisissant parmi des milliers de mots, le mot qui choisit et qui touche et qui pénètre celui qui l'entend. C'est un exercice de style, c'est pas facile. Tu peux dire plein de choses. Alors, on reprend le texte. Sheken hadar bechul domé ke mishen lo eloa. Donc dit la Gemara. Vetzivui ha mitzvot haya beikar lezman knisatam l'eretz Israël. Donc dit le Rav. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné les mitzvot? Pour le moment où nous allions rentrer en terre d'Israël. Ça veut dire que les mitzvot font partie de la terre. La terre et les mitzvot ne font qu'un. Donc, Ayen Rambam, le Rav nous renvoie au Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Bereshit Kavav He. Ce sont des références, ce n'est pas des gens qui parlent en l'air. Okay. Allez voir ce que Ramban dit à ce sujet-là. Et le Ramban, qui est un des plus grands kabbalistes du Moyen-Âge, nous dit donc ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que toutes les mitzvot avaient un lieu. Et c'est pour ça que nous appelons à Kadosh Baruch Hu Makom. Baruch HaMakom Baruch Hu. Pourquoi on l'appelle Makom ? Est-ce que Dieu c'est un lieu ? Est-ce que tu fermes Dieu dans un lieu ? Eh bien, justement, l'une des manières de se dévoiler se trouve dans le degré de Makom. Sans rentrer maintenant dans les détails. Vekiyuma mitzvot bechul. Alors effectivement, il y a des gens qui quand même réalisent qu'ils font des mitzvot en dehors d'Eretz Israël. Alors à quoi ça ressemble ? Alors, kiyuma mitzvot bechul, hu kedei shekshayachzeru la'aretz, dit le Rav. Le but de pratiquer les mitzvot en dehors d'Eretz Israël, c'est qu'au jour de la rédemption, le jour où tu reviendras sur ta terre, lo yu chadashim be'enehem, ça ne sera pas quelque chose de neuf pour toi. Pourquoi ? Parce que tu t'es exercé à les faire, même pendant que tu étais en dehors d'Eretz Israël. D'où est-ce que le Rav prend cela ? Eh bien, vous l'avez entre parenthèses, Ayen Sifri Dvarim Yud Alef Yutret. Dans le Sifri, donc, qui est le Midrash du livre de Dvarim. D'où est-ce que le Sifri a trouvé ce degré ? Je vais plus loin. Eh bien, de Kriyat Shema. Qu'est-ce que c'est Kriyat Shema ? Quand vous dites Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, vous commencez, Ve'avta, Eshet, ta 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 ta. Ishamru lachem penifte levavchem. Faites attention, le jour où votre cœur commence un petit peu à bouger, vesartem ta 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 ta. Qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il nous dit? Va avadetem mehera me'al haaretz atova. Vous allez sortir de la terre, la bonne terre. Et la suite, c'est quoi? D'accord. Vous allez sortir de la bonne terre que je vous ai donnée, que je vous donne, mais après la suite. Non. Incroyable, mais vrai. Je le dis toute la journée. Mais... Non. Il a fait. Ukshartem otam leot al yedechem vaïlot otafot ben erchim. Incroyable. Après cela, maintenant, Dieu a dit, je vous rappelle, je vous ai jeté de la terre parce que vous avez oublié, vous êtes tordu, vous êtes ce que vous voulez. Ok. Premier degré, c'est ce qu'on vient de dire. Deuxième verset, juste à côté. Attention, continuez à mettre les tefillin. Quel rapport? Eh bien, le Sifri dit justement, si Akadosh Baruch Hu me dit de sortir et qu'il me dit continue à mettre les tefillin, ça veut dire que j'aurais pu comprendre que normalement, je devrais arrêter de mettre les tefillin en dehors des Eretz Israël. Mais comme la Torah me dit de continuer à les mettre là-bas, ça veut dire que c'est une nouveauté, un ridouche ici. Normalement, on ne peut pas mettre les tefillin en dehors. Mais je te donne, moi, la Torah, je t'ordonne de continuer à les mettre là-bas, pas parce que tu réalises la même mitzvah, pour ne pas oublier que tu dois revenir un jour, attention. Parce que tu risques même de ça d'oublier. C'est comme un mauvais élève, on l'a jeté de la classe, et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Au lieu de taper les 5 minutes et tu dis monsieur le professeur, madame, je peux rentrer? Non, tu le vois dans le couloir, tu lui dis qu'est-ce qui se passe? Tu dis c'est un kiff, j'ai une heure de tranquillité, je peux jouer au basket. Et bien il y a des mauvais élèves dans l'histoire du peuple juif qui ne veulent pas revenir sur la terre d'Israël, qui sont dans les couloirs de l'école et qui ont pris ça comme un cadeau alors que c'est une punition. Il est en train de rater son cours. Il est en train de rater son bac, il est en train de rater son avenir. Et lui, il pense à son petit match de foot ou de basket, et il a complètement oublié. Alors Kadosh Baruch Hu lui dit, ah non, c'est pas comme ça. Moi, je vais te donner une école spéciale. Quand tu sors en récréation, tu vas faire des cours. C'est pas, je ne te jette pas du cours pour aller te balader comme les profs font aujourd'hui. Je te jette du cours avec 3 livres. Et je veux qu'à la fin de ce que je t'ai jeté maintenant, tu me cites les 3 livres par cœur. Alors là, le gosse, il n'en peut plus, il a envie de rester sur place. Vous avez compris? Alors continue à mettre les tefillin en dehors, parce qu'un jour tu vas revenir, je ne veux pas que tu oublies pourquoi je t'ai jeté.
Et après, au Kshartem, il y a l'Eman.
L'Eman, Irbou, Yemechem, Al-Aaretz.
Al-Adama.
Ça veut dire que je veux, j'ai un but. Je veux que vous viviez bien ou sur la terre que je vous ai donnée. Et le Birkat Amazon, quand vous le faites, vous parlez de quoi? De quelle terre? De la terre d'Israël, même quand tu es à Paris. À la Haaretz vers l'Amazon. Ha Haaretz avec Hei Hayedia. La terre en question. Donc, il a Tadavar. Le Rav continue. Le but de ce que je suis en train de te dire. Chez Kola Mitzvot Arugot. Qu'est-ce que ça veut dire Arugot? Tissé. Toutes les mitzvot sont tissées. C'est-à-dire, elles font partie d'un tissu. Veshluvot. Elles sont imbriquées. Zo bazo, l'une dans l'autre, ve'yef char le achat belo chaverta. Et on ne peut pas une sans l'autre. Umipneze, et c'est à cause de cela, pour cela, be'eretz Israël shenohagot shan, kol ha mitzvot kulam, puisqu'en terre d'Israël, toutes les mitzvot doivent être réalisées, alors qu'en dehors d'eretz Israël, il y a plein de mitzvot que tu ne peux pas faire. Donc ça veut dire qu'en dehors d'Eretz Israël, tu as coupé les mitzvot en deux. Ça veut dire que ce n'est pas un tissage. En Eretz Israël, c'est un tissage parce que toutes les mitzvot sont réalisables. Donc tu dois être ici pour faire ton tissu et pour ne pas avoir l'air d'un clochard avec un tissu troué. C'est exactement ça. C'est-à-dire où tu es dans la poubelle de l'histoire, où tu es en train de tisser un vêtement qui va te servir pour en réalité qu'être glorifié à Kadosh Baruch Hu dans ce monde.
C'est un vêtement
pour Akadosh Baruch Hu. Non, c'est la même chose. Un gouf, c'est un vêtement pour l'aneshama. C'est-à-dire, notre vêtement en réalité, c'est un vêtement pour réaliser Dieu dans ce monde. C'est-à-dire que nous construisons.
Tsoura, c'est vêtement.
Tsoura, c'est vêtement. Okay. Ça veut dire que nous sommes en train de donner une forme, un vêtement, un dévoilement, une mesure, okay, madim, mida, au degré qui est au dehors de la mesure. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, qui est en dehors de la mesure, peut descendre dans les mesures et s'habiller dans les mesures. Et nous, nous fabriquons ces mesures. C'est-à-dire que je dois tisser, moi, de belles mitzvot, donc je dois faire un beau tissu. Je dois m'occuper, moi, du plus beau tissu que je peux trouver. Quand je fais une mitzvah, je ne vais pas la faire seulement pour la faire. Je vais acheter, par exemple, des tefillines très belles, avec une écriture que je vais chercher magnifique. Quand j'achète un loulab, j'essaye de le faire magnifique. Quand je construis une maison, j'essaye de la faire belle. Quand j'ai un jardin, je dois l'embellir en Eretz Israël. En Eretz Israël, on n'a pas le droit de construire une maison dehors. Vous savez ça. Okay. Ça, c'est encore une autre mitzvah. C'est interdit tout ça. Il faut comprendre les choses. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de m'occuper, par exemple, de labourer la terre et de semer en dehors d'Eretz Israël. Okay. Il y a plein de inyanim, mais voilà. Je donne la force à qui? À une autre nation que la mienne. C'est pas que je ne respecte pas l'autre nation, mais elle a ses propres habitants. Moi, je dois respecter ma nation et donner force à ma nation pour que de cette nation sorte la lumière aux nations du monde. C'est-à-dire, je ne suis pas contre les nations du monde, au contraire. Si le peuple d'Israël revenait sur sa terre et s'installait sur sa terre, eh bien, les nations du monde auraient beaucoup plus de lumière parce que nous sommes là, pas pour nous, pour nous enfermer dans un ghetto, mais pour donner la divinité au monde. Et lorsque les nations du monde entendent la parole d'Israël qui sort de ce degré-là, de ce niveau-là, bien elles viennent, parce que dans leur nature profonde, elles savent qu'elles sont rattachées à Israël. Et aujourd'hui, de plus en plus dans le monde, les gens commencent à s'attacher à Israël en quittant plein de degrés qui n'avaient aucun sens. Ok ? Donc, Shemash hu ikar hamakom lekiyuman. Donc, la terre d'Israël, c'est l'essentiel, Ikar Hamakom, l'essentiel pour... Qu'est-ce que c'est Kiyuman? Pour les faire exister. Les Kayem, ce n'est pas seulement appliquer les mitzvot. En français, on dit appliquer des mitzvot. Okay? Non, c'est donner vie et donner une existence. Okay? Et maintenir en vie tout ce processus divin. Ce n'est pas, encore une fois, un acte symbolique. On fait des petits actes qui s'appellent des mitzvot, des béa. Okay? C'est pas des BA, c'est pas des bonnes actions. Mashe'enken, Bechul, ce qui n'est pas le cas, dit le Rav, Bechutz la'aretz. Je vous rappelle que le Rav par là était Haredi, okay? Orthodoxe au départ, et il s'est relié au Rav Kook, et il a compris en réalité le secret, okay, de la Torah de Eretz Israël. Ça veut dire qu'ils viennent tous les deux, et lui et le Rav Kook de Yeshivot, qui au départ n'étaient pas réellement sionistes. Mais lorsqu'ils ont compris le sujet, ils nous le font passer. Donc, Mashe'enken Bechul, Shekol Mitzvot Atluyot Ba'aretz, donc en dehors d'Eretz Israël, déjà, toutes les mitzvot qui sont relatives à la terre, on ne peut pas les faire. Einan Nohagot Shama, par exemple la Shemitah, par exemple le Yovel, par exemple tous les degrés de plein de choses. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, ça veut dire que tu as coupé ton tissu en morceaux. Alken, akiyum shelahen, urak begeder einom metsuve veose. Donc, en dehors d'Eretz Israël, il manque le metsuve. Einom metsuve. Il manque le metsave. Donc, tu n'es pas metsuve veose. Ça veut dire que tu fais l'action, mais il manque en réalité la circulation divine dans cette action pour remplir le monde. Ok? Non, non, c'est pas le même degré. Je comprends où tu veux en venir. C'est une théorie un petit peu qui essaie de dire que tant que le temple n'existe pas, alors on est encore en exil. C'est faux. L'exil et la rédemption ne se font pas. Noir, jour. On n'est pas chez les visiteurs. Okay? Ça veut dire que pour passer du noir à la lumière, il faut passer graduellement. Le soleil ne se lève pas d'un seul coup. Il fait nuit, d'un coup il fait jour. Non, tout doucement, ça s'appelle Ayelet HaShachar. Et la Geoula ressemble à ça, dit la Gemara dans le traité de Brachot à la première page. Okay? Ça veut dire quoi au premier Perek, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on passe de la torpeur de la galoute à la grande lumière de la Géoula, il y a un processus. Donc dans ce processus, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui je suis comme j'étais il y a 60 ans. C'est mentir aux gens. C'est faux. C'est faux. Arrêtez. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans un processus de Géoula qui a bien commencé. Il ne faut pas être ingrat et dire à Kadosh Baruch Hu ou à ses semblables. Non. Aujourd'hui, on est en exil. Tu sais pourquoi ? Il n'y a pas de Beth Amikdash. Et quand il y aura Beth Amikdash et qu'on aura encore des guerres avec des ennemis, parce que ça continue, c'est pas tout de suite que ça s'arrête. Les mêmes gens vont dire quoi ? Non, c'est pas encore la Géoula, parce qu'il y a encore des guerres. Le Beth Amikdash, il manque encore un ascenseur. C'est toujours pareil. C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas accepter que nous soyons déjà dans une Géoula vont toujours chercher des points noirs pour dire qu'on n'est pas dans la Géoula. Et c'est faux. Nous sommes dans la Géoula, mais elle n'est pas complète. Ça, oui. Ça, j'accepte. Nous sommes dans la Géoula, mais elle n'est pas terminée. Ça, oui. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Atralta de Géoula, le début de la Géoula, Géoula et Gmar à Géoula, Gmar à Tikkun. Ok.
Je crois qu'il faut quand même d'abord que tous les Juifs rentrent en Israël et seulement après on doit construire le Beth Amikdash.
Non, 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 non. Malheureusement, okay. C'est notre, je suis d'accord avec vous, c'est notre volonté, c'est notre désir, c'est notre tefila. Mais il peut y avoir... Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'histoire va se faire avec ceux qui sont là. Et on invite nos frères à rejoindre ce processus de l'histoire. Mais malgré cela, okay, pendant qu'il y a le deuxième temple et le premier temple, il y avait des juifs en dehors d'Eretz Israël. Il y a fait. Mais il y avait un temple et les juifs étaient encore dehors.
Mais nous prions.
C'est pas la même chose, Nachon. Eh bien, tu as raison. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de revenir sur notre terre et il se peut que certains ne veulent pas jouer ce rôle. Ne veulent pas faire partie de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ils vont vouloir.
Ils vont vouloir. C'est vrai. Il y a des gens qui ne sont même pas sortis d'Égypte, 80%, et l'histoire a continué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Okay. Nous, on prie pour que tout le monde rejoigne ce degré-là. Mais il y a des gens pour qui le monde intérieur et individuel, parce que c'est de cela qu'il s'agit, je vais un petit peu faire mal, okay. C'est en réalité notre... égoïsme privé qui nous empêche de monter parce que là-bas je gagne du fric, c'est tout. Il faut être clair, c'est pas moi qui le dis, c'est le Kuzari. Le Kuzari dit là-bas tu as la vie plus facile, donc c'est plus facile. Ici on explose dans les autobus et c'est plus difficile de gagner sa vie.
Excusez-moi, okay. Parce que là on a eu un dilemme pendant Shabbat, okay. Et j'ai failli me lever de table de kiddush que je pouvais plus entendre,
okay.
Je ne veux plus entendre parler de facilité en France.
Non, mais c'est parce ce que les gens pensent.
Même ceux qui gagnent facilement aujourd'hui se plaignent.
Vous savez, moi je connais des gens, ils ont des magasins depuis 30 ans et toutes les années ils disent c'est moins que l'année dernière. Mais ils sont toujours là-bas, blindés, grâce à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tendance juive comme ça, de dire oh là là, tu sais, c'était, oh là là, cette saison, oh, j'ai rien fait. C'est-à-dire au lieu de 20 millions, il a gagné 19. Je m'en fiche de ça, c'est pas ça. Je répète, moi, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Moi, je répète ce que les sages nous ont dit. Le Kuzari, à la fin de son livre, il nous dit ça. Il nous dit, pourquoi tu ne montes pas en Israël? Il lui dit, il lui répond. Il lui répond parce qu'en Israël, il y a des guerres, c'est dangereux, je n'ai pas envie de mourir à la guerre. Et des gens, ils le disent. J'ai pas envie que mes enfants fassent l'armée, j'ai pas envie que mes enfants rentrent là-dedans, j'ai pas envie que mes enfants rentrent dans cette histoire. C'est difficile. À Paris, je suis tranquille. Mon seul souci, c'est dans quel restaurant on va manger ce soir. Okay, c'est tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Alors, ça change. L'époque est en train de changer. C'est vrai, certes. Mais, encore une fois, c'est penser à soi et pas à ses enfants et pas à ses petits-enfants. C'est-à-dire, tu penses à ta propre vie aujourd'hui. Tu penses à toi. Okay, je l'ai dit à des gens qui étaient là-bas dans des séminaires. Vous êtes égoïste. Vous pensez à vous et vous oubliez votre descendance. Parce que vous allez vieillir en France, vous avez déjà la connaissance, la mentalité. Mais quand les enfants vont grandir, ça sera, ils vont comprendre que ce n'est pas leur identité. Il va falloir encore tout recommencer à zéro, les pauvres. Alors que si toi, à la limite, tu te brûles, mais pour le bonheur de tes enfants, alors là, ça veut dire que tu es un homme et une femme. J'ai compris, ce n'est pas pour moi. Alors moi, je vais avoir des difficultés, c'est pas grave. Mais je vais faire en sorte que mes enfants naissent ici. Qu'ils commencent à apprendre l'hébreu dès la naissance. Ils n'auront plus de problèmes, ni oulpa, ni zdaras, ni rien. Directement, ils sont dans l'ambiance déjà. Vous connaissez l'histoire de celui qui pendant des années a grimpé pour arriver à la plus haute montagne, et il sait des exercices et des machins, tout ce que vous voulez, Ken. Et à un moment donné, il monte des kilomètres et des kilomètres. Il arrive au sommet de la montagne avec des tempêtes de neige et tout. Il est mort, crevé et tout. Il plante son drapeau. Il s'évanouit comme ça. Au bout d'un quart d'heure d'évanouissement, il entend des bruits. Il se lève, il voit plein d'enfants courir. Alors, plein d'enfants courir là-bas. Alors il dit à son copain, c'est quoi ce truc-là? Moi, toute ma vie, rien que pour arriver ici, je plante un drapeau. Ceux-là, ils sont nés ici. Voilà la différence. Ceux-là, ils sont nés ici. Et donc, et donc la mitzvah, c'est pour toutes les mitzvot, pas pour une partie. Je ne suis pas en train de couper les mitzvot comme un tissu que je suis en train de découper. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël. Et il a prié 515 prières. Alors ça me fait rire quand des gens ils me disent, mais Moshe, il n'est pas rentré. Bien sûr qu'il n'est pas rentré, le pauvre. Tu sais ce qu'il a pleuré pour rentrer? 515 tfilotes, et une tfila de Moshe, je vous garantis, c'est pas notre petite tfila à nous. Tfila de Moshe, ça déchire les cieux. Et Moshe de lui-même, il dit à ses voisins, votre Dieu, pas le mien. Il dit le Zohar, comment il peut leur dire votre Dieu, pas le mien? Parce qu'il n'a pas de Elohim. Comme ça dit le Zohar. Donc Moshe dit Hashem Elohechem, lo Elohenu. Et le Zohar pose la question, comment Moshe, il s'est sorti de Elohenu? Il dit, c'est votre Dieu, pas le mien. Il dit, oui, parce que Ani Domé Kemiche Elo Eloa. Moshe, il connaît la Gemara, même avant qu'elle soit écrite. Ça veut dire, Moshe, il s'est retranché lui-même, comme s'il n'avait pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises, des salades. C'est un Zohar, Medouyak, Dvarim. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il s'est considéré à la fin de sa vie comme s'il n'avait pas de Dieu. Moshe Rabbeinu! Et il s'exprime dans la Torah. Dans la Torah, dommage que je n'ai pas un livre ici. Hashem Elohechem, otzi etchem. Mazel la Hashem Elohenu, otzi otanu. Non.
Dit tout à l'heure la différence entre
Hashem
et
Hashem. Donc il a pas.
Hashem
et Hashem et Elohim. Donc Ve'al-Yedeze, Yiyu mitkaimot kol ha-mitzvot be-geder metzuve ve-ose. Donc en venant en Eretz Israël, je ne suis pas un applicateur de mitzvot. Je suis un canal de diffusion divine dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a un ordonneur, il y a un ordre et il y a un ordonné. Et tout ça, ça donne une grande lumière dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a un écoulement naturel d'Akadosh Baruch Hu à travers la mitzvah que je suis en train d'appliquer. Ce que je suis en train de vous dire, il faut le vivre, mesdames et messieurs. Si vous ne le vivez pas dans votre vécu maintenant, vous êtes en train d'étudier la Torah, c'est ça la pensée que vous devez avoir pendant cette mitzvah. Ce chidouche que je vous donne, je l'ai appris de mon maître, le Rav Zuckerman. Si tu es en train de faire une mitzvah, pense à ça. Pense que maintenant Dieu est en train de circuler dans ton être. Et qu'il y a plus de divins. Et ceux qui s'ouvrent plus à cette pensée, ça circule plus chez eux. Comme un entonnoir. Ça va là où Dieu trouve un élément correspondant. Donc si je veux vraiment, que c'est ça mon but, Akadosh Baruch Hu ne refuse pas. Il te dit, oui mon fils, je passe par toi, il n'y a pas de problème. Ouvre-toi, je passe. C'est ça le tino. Donc, Veken Amar, donc Mitzvah, Metsuve Veose. Donc, qu'est-ce que nous sommes en réalité, nous? Comment on est appelé? Ose Retsono. Qu'est-ce que ça veut dire Ose Retsono? Je veux une traduction réelle.
Faire sa volonté.
Qu'est-ce que ça veut dire, nous faisons sa volonté? Nous sommes les faiseurs de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ressemble à quoi? Dans un être humain, toi, où est ton faiseur de ta volonté? Qui c'est?
C'est ma neshama qui
préfère
mon corps.
Ça veut dire tout ce que tu fais, exactement. Tes mains, tes pieds, tes oreilles, tes yeux, ton nez, ta bouche, tout ça, ça s'appelle des faiseurs de ta volonté. On est d'accord? Par exemple, ma volonté maintenant, c'est de lever ce verre. Qu'est-ce qu'elle va faire, ma volonté? Elle va envoyer un ange. Donc elle envoie un ange. Voilà l'ange. C'est un ange, la main. C'est un envoyé de mon être intérieur. C'est la même chose. Donc je suis en train d'envoyer un ange. Cet ange-là, maintenant, comment je peux le décrire? Osé Retsoni. il est le faiseur de ma volonté. Ça veut dire que les enfants d'Israël, en Eretz Israël, c'est comme les mains, les pieds, les yeux et les oreilles d'Akadosh Baruch Hu. On réalise Akadosh Baruch Hu complètement, comme pas moins que cette main. Or, si je suis un homme normal et Akadosh Baruch Hu, c'est un être ultra normal, est-ce que je vais faire du mal à ma propre main?
Non,
je vais respecter mon corps. D'accord?
Est-ce que je vais donner une claque à quelqu'un si c'est la main
d'Hachem? D'accord, ça c'est encore un autre degré. Ça, c'est déjà... Pour l'instant, je suis dans mon être à moi. Ça veut dire, est-ce que je vais faire du mal à mon propre corps? Non, il est interdit de se faire du mal. D'accord? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu protège ses mains, ses jambes et ses pieds qui sont en réalité nous.
Excusez-moi, j'ai envie d'applaudir.
C'est vrai. Donc, Kach Ama Moshe Harbe Mitzvot Nitzavu Israël. Donc, Moshe, qu'est-ce qu'il se dit? Beaucoup de mitzvot Israël ont reçu. Ve'em mitkaimim el ha'be'eret Israël. Voilà Moshe. Moshe, c'est Moshe qui parle maintenant, c'est pas Yoel. Toutes les mitzvot, beaucoup de mitzvot, on ne peut les appliquer qu'en terre d'Israël. Alors, Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Conclusion, Akanes, Ani. La Haaretz, moi aussi je veux. Pourquoi je suis retiré de cette bracha, de ce cadeau? Je veux rentrer. Regardez-moi aujourd'hui des gens qui, comme idéal, restent dehors, alors que Moshe pleurait, mourait pour entrer. Mais comment vous pouvez faire ça? Je ne comprends pas. Et en plus, on vous fait croire que vous avez raison. C'est terrible. Des maîtres qui vous disent le contraire. Il y a un maître plus grand que Moshe Rabbeinu. Ça n'existe pas. Akanes ani la aretz kedesh itkaimu kulam al yadi. Je veux moi participer à cette histoire, Akadosh Baruch Hu. Je veux devenir ta main. Je veux devenir ton œil. Je veux devenir ton pied. Je veux devenir ton oreille. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des inventions. Il est écrit dans le verset qui ayn be'ayn yiru beshuv Hashem Sion. Qu'est-ce que ça veut dire qui ayn be'ayn? Ça veut dire qu'au moment où mon œil sera rivé, mis au niveau de l'œil divin, alors je vais le voir quand il revient à Tzion. Sinon, tout ce qui va se passer, je vais dire, mais il n'y a pas de Géoula, il n'y a rien. Yom HaAtzmaout, c'est du bidon, c'est une invention humaine. Pourquoi? Parce que tes yeux ne sont pas au degré du yeux du divin. Le Rav Kook nous dit que chez Yu Einecha, Begova Ha'ain HaElohit, quand tu vas élever tes yeux à l'étage du Dieu, de l'œil de Dieu, tu verras les choses avec une correspondance. Et donc tu verras l'histoire avec un autre œil, avec le vrai œil, et pas l'œil tordu dans lequel tu es en train d'évoluer maintenant en croyant que c'est l'œil de la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ain Hara. Alors que le Ain Tova, c'est Eretz Israël, ça s'appelle Ain Tova. Donc qu'est-ce que c'est le mauvais œil? C'est pas à être jaloux de l'autre. Mauvais œil, c'est toujours voir le mal partout. Toujours voir ce qui manque partout. Jamais croire que c'est nous sommes dans un processus. Non, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ça s'appelle Arinara. Des gens comme ça, il faut les éviter. Le Zohar, il dit qu'il faut éviter des gens comme ça parce qu'ils te collent.
Donc il y a tout sur cette terre, il manque rien.
Voilà. Oui. Il faut juste voir les choses.
Oui, mais quand, il y a quand même des gens qui sont pas
bons, je vous en prie. Il y en a qui sont bloqués avec le Rémi. Excusez-moi, est-ce que vous trouvez normal qu'un juif vous dise en France on est bien parce qu'on a un.
Pourquoi tu me dis dans les conversations maintenant tu me dis vous. Ah, il y a la caméra et alors
on ne sait pas qui c'est qui.
J'ai pas ouvert le truc, c'est dommage. C'est pas...
Si.
Non, je rigole.
Non, parce qu'il y en a qui vous disent qu'on est bien en France, qu'on a un RMI. Parce que
Encore une fois, je m'en fiche de ça. On peut. Encore une fois, je ne veux pas que tu viennes de France ici parce que tu es mal là-bas.
Voilà.
C'est pas ça mon but, je m'en fiche que tu sois bien. Je veux que tu viennes parce que tu as compris que ton degré est ici, que ta, dans l'avenir est ici, que ta vie est ici. Je m'en fiche de ce que tu as, Rami ou Robert.
Non, mais ça veut dire donc, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont coincés dans un petit.
Alors, comment les grands rabbins qui sont encore de tout ça?
Ah, ça, il faut leur poser la question.
J'ai appris qu'on va dire à la messe, il faut que ça arrête, c'est la
même chose. Yonis.
Non, alors, c'est
Chas,
c'est pas. Je sais plus qu'un rab, mais il y a un grand rab.
Parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de malchut en Eretz Israël, donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Okay? Quand il n'arrive pas, quand il y a une malchut, quand il y a une royauté en Eretz Israël, alors il faut être là.
Non, mais je veux dire, il y a peut-être aussi, ils ont peut-être un certain rôle. Il y a
un rôle jusqu'au moment où l'exil se termine. Il faut savoir déceler le moment où ça se termine. Tu ne peux pas jouer un rôle une fois que le rôle est terminé. Ça y est, ton rôle maintenant, c'est quoi? C'est d'amener toute ta communauté, Gamarnou. Ça suffit. Sinon, tu peux jouer des rôles toute la journée. Moi aussi, je me trouvais un rôle. Tu sais, si je réfléchis un petit peu, je me trouvais un rôle. Facilement. Je peux me trouver un rôle. Je veux me faire style, je vais maintenant en France pour 2 ans. D'ailleurs, le Rav veut m'envoyer là-bas. Pour 2 ans ou 3 ans. Ce que j'ai dit à ma femme, elle m'a dit, mais même si c'est le Rav Zuckerman, je ne le fais pas. Ma femme, je lui dis, donc, je l'ai appelé le Rav, je lui ai dit, ma femme ne veut pas, il m'a dit. Il a eu peur. Mais les gens le font. Ouais, grâce à son fils, à Madame Ackerman, et des gens comme nous sont montés aussi, au Rav Menachem, bien Inara. Et donc il s'est donné pendant quelques années pour venir chercher des gens qui étaient encore là-bas paumés. Alors on peut se trouver des rôles, mais il faut savoir où est l'avenir de ce peuple et où est la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne. Pas ce qui m'arrange ou ce qui ne m'arrange pas. Encore une fois, arrêtez. Ou tu es honnête ou tu n'es pas honnête. Ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas, je peux trouver toujours des combines. Ce que Dieu veut, sa volonté à lui, c'est que je sois là. Ça, c'est une évidence. Et il me le dit à tous les versets de la Torah. Sinon, je suis aveugle, je fais semblant. Alors vraiment, je suis un mauvaise foi. Okay? Mauvaise foi. Okay. Il y a des gens qui ont des crises de foi. Pas FOIE. Il y a des crises de foi. Un manque de Emouna. Okay. J'ai rencontré une femme cette semaine. Je dis, qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien. Elle me dit, oui, j'ai une crise de foi. J'ai compris de quoi elle voulait parler. Un problème de Emouna. Oulam, Akadosh Baruch Hu eshiv lo. Donc, qu'est-ce que répond Akadosh Baruch Hu à Moshe? Klum ata mevakesh ela lekabel sachar. Tu veux faire ça pour recevoir une récompense, Moshe Rabbeinu? Tu veux aller en Israël pour recevoir une récompense? T'inquiète pas, je considère comme si toutes les mitzvot d'Eretz Israël, tu les as faites. D'accord, Moshe? On s'est mis d'accord. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dragué Moshe, il lui a dit, c'est ça ce qui te manque, t'as pas appliqué les mitzvot en Eretz Israël, t'as compris que c'était une mitzvah très importante, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, je peux faire ce que je veux? Alors voilà, je considère Moshe, à partir de maintenant, tu as tout fait. Ça veut dire, toi, tu voulais être Metsuvé Veosé. Tu as compris le secret. Alors, je te fais comme si tu étais Metsuvé Veosé. Shehua sachar atzmo ane'elam amechaberet mekayem ha-mitzvah ima metzavé baruch hu letzavtachada. Voilà ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Voilà le cours. Tout le cours, il est dans ces mots-là. Moshe, tu viens de comprendre, lui dit Akadosh Baruch Hu, okay, que lorsque tu fais une mitzvah et qu'il y a un ordonneur de la mitzvah est celui qui l'applique, tu as compris ce que dans le cours de Yoel, on t'a raconté. Et donc, tu as compris qu'en réalité, tout ce degré, il est en train de circuler. Alors moi, Akadosh Baruch Hu, je vais faire en sorte de te rentrer dans mon équipage, Tzavta, tu vas devenir avec moi, dans mon équipe, je considère dans mon degré infini, dans ma bonté infinie, je te fais ce cadeau. Voilà. J'ai vu que tu étais tellement dans l'envie de faire ça que là où était ton esprit, ton corps, ta cervelle, ta volonté, eh bien, c'est comme si tu l'as fait. Je considère, ça y est, c'est marqué dans mon livre, tu l'as fait. Tu sais quoi? Je vais te monter au niveau de la terre d'Israël. Tu sais pourquoi, mon cher? Parce que tu voulais. Si tu étais là-bas et tu me joues des tours et tu me dis non, il y a une mitzvah, je vais m'arranger, mon rabbin il m'a dit, j'ai une boucherie cachée, je peux me débrouiller ici, machin, toutes tes embrouilles, je t'aurais dit, arrête de m'embrouiller, c'est moi l'Éternel. Mais comme je vois que tu voulais vraiment appliquer cette mitzvah, mais il t'est impossible parce que moi je t'ai empêché, alors je considère que tout a été fait par toi. Et donc toi tu es devenu le degré d'Eretz Israël. Bechol makom she'incha nimtza. Et là où tu te trouveras, Sham Hu Eretz Israël. Toi, tu deviens comme Eretz Israël en forme humaine. ואינך בגדר מצווה ועושה בכל המצוות כולה. Parce que tu as envie de faire cette mitzvah réellement, et c'est là où je vous conseille, ceux qui ne sont pas encore ici, au moins de vouloir l'être. C'est-à-dire réellement, de dire à Kadosh Baruch Hu, je veux être sur cette terre, je ne peux pas. Pas en une embrouille cachée, vrai. Et plus que ça, pas seulement qui ne sont pas là, même nous qui sommes là. Ceux qui sommes là, pas être là avec un œil toujours sur l'Amérique, sur la France. Ah, j'ai envie un petit moment à Paris, quel kiff. Attention, ça aussi, est-ce que j'aime cette terre réellement? Et ça, personne ne peut se tromper, personne ne peut mentir. Tu peux mentir à tout le monde, sauf à la lumière. Et donc, si tu es réellement conscient de ta plénitude, de ta chance et de dire à Kadosh Baruch Hu, de parler quand tu roules en voiture et que tu vois, de dire à Kadosh Baruch Hu, merci, je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu me fasses amener ici, mais je te remercie. Atkan Layon.